Eh bien, bonjour à tous. Bonjour particulièrement aujourd'hui à toutes les mamans. Bienvenue à ce culte découverte, culte que nous avons dû arrêter à cause de la situation sanitaire et que nous sommes heureux de reprendre. Je suis heureux de partager la Bible avec vous. J'ai donné un titre à cette méditation. Et le titre, c'est « Histoire d'eau » avec un point d'interrogation, volontairement. Et nous prenons la lecture où il est question d'eau, dans Jean 4, verset 3, et nous lisons. Jésus quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. Et à cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assit au bord du puits. Il est à peu près midi. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine dit à Jésus « Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire. » Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerais une eau pleine de vie. » La femme lui dit, « Mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre ? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre ? C'est lui qui nous a donné ce puits et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » La femme lui dit, « Seigneur, « Donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va appeler ton mari et reviens. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu en as eu 5. Et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme lui dit, « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Jésus lui répondit, « Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut de Dieu que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit-Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit-Saint et comme le Fils l'a montré. » La femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répondit, « Le Christ, c'est moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande « qu'est-ce que tu veux ?» ou « pourquoi est-ce que tu parles avec elle ?» Alors la femme laisse sa cruche à cet endroit. Elle part à la ville et elle dit aux gens « Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est peut-être le Messie. » Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Beaucoup de Samaritains de la ville de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause de la parole de la femme. En effet, elle leur a affirmé « Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand les gens arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent « Reste avec nous !» Et pendant 2 jours, Jésus reste là. Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui parce que c'est lui-même qui leur parle. Nous sommes ici dans la ville de Sichar en Samarie et c'est une province d'Israël. Aujourd'hui, cette ville, elle s'appelle Naplouse. Mais au temps de Jésus, il y avait au nord la Galilée, au sud la Judée où il y avait Jérusalem, et entre ces deux provinces, il y avait la Samarie. Et les Juifs qui voulaient aller de Judée en Galilée devaient traverser la Samarie. Mais les Juifs très pieux avaient peur de se salir avec ces Samaritains qu'ils méprisaient. Alors ils préféraient traverser 2 fois le Jourdain et monter en Galilée de l'autre côté, côté est du Jourdain. Mais qui étaient donc ces Samaritains ? À partir de 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont conquis Israël et emmenèrent en captivité une partie de la population de Samarie. Et ils les ont remplacés par d'autres qu'ils ont amenés sur place. Alors, au bout de plusieurs années, il y a eu des mariages de ces païens et des juifs restés sur place. Ils ont développé leur propre religion, qui était en partie basée sur les idées païennes et en partie sur le judaïsme. Ils ont même bâti leur propre temple sur le mont Garizim. Ils avaient leur propre langue et leur propre version de l'Ancien Testament, et ils utilisaient que les 5 premiers livres de la Bible. Pour les Juifs, les Samaritains sont un mélange de race, de religion et de culture, et ils ne peuvent pas le supporter. Alors qu'on se détournait de Samarie, Jésus y est passé volontairement. Lui, il est au-dessus des barrières douanières, raciales, culturelles, politiques, religieuses et sociales. Voilà pour situer le contexte. Avec ce texte que nous avons lu, nous allons essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de notre Dieu. Et plus précisément, comment il s'y prend pour visiter les humains que nous sommes. L'apôtre Jean, qui a écrit cet évangile bien après les 3 autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, y ajoute certains événements qu'il juge utiles pour bien expliquer, pour bien que nous tous puissions comprendre comment Dieu s'approche de nous, les humains. Ainsi, il est le seul à raconter le premier miracle opéré par Jésus. C'était à un mariage à Cana, en Galilée. Le vin vint à manquer et Jésus changea l'eau en excellent vin. Il est le seul à raconter la rencontre avec Nicodème, un religieux, connaisseur des Écritures et de la loi juive, et à qui Jésus explique la nouvelle naissance que nous devons tous expérimenter. Et il est aussi le seul à raconter l'histoire de la Samaritaine. Nous découvrons donc que Jésus a un objectif. Et c'est l'objectif de notre Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Les Juifs, de leur côté, avaient mal compris le plan de Dieu. Ils pensaient que le Messie promis était uniquement pour le peuple juif. Alors si les Samaritains croyaient autre chose, ça les laissait froid. Et ils avaient même un certain mépris lorsqu'ils parlaient des Samaritains. Et Jésus, après son enseignement du peuple juif, va faire cette démarche qui choque. Il ne se détourne pas de la Samarie, mais il s'y arrête. Attitude nouvelle qui dérange ses compatriotes et qui surprend les Samaritains. Lorsque nous lisons ces textes dans lesquels nous est racontée la vie de Jésus, nous remarquons que le Christ a toujours un objectif. Il veut approcher les personnes, soit pour les enseigner, soit pour les édifier, soit pour les guérir, mais surtout pour les aimer. Il approche les personnes en les rejoignant dans leur vie de tous les jours, leurs peines, leurs difficultés, leurs maladies, leurs mauvais choix, leur égarement. Et nous remarquons dans les évangiles que Jésus conduit ceux qu'il rencontre vers une libération du corps, une libération de l'âme, une libération de l'esprit. Il remet les personnes en route, en marche, mais pas n'importe comment, ni vers n'importe quelle destination. Alors comment Jésus s'approche-t-il de cette femme? Vous savez, Dieu a sa façon à lui de nous retenir. Il utilise parfois la maladie, un accident, la perte d'un emploi, le départ d'un être cher, une trahison ou un échec quelconque. Mais il utilise aussi des événements heureux. C'est sa façon à lui de nous dire « J'ai quelque chose à te dire ». Jésus attend donc cette femme que tous évitent. Cette femme est seule. Elle vient puiser son eau lorsque tous font la sieste. Et Jésus va utiliser sa soif pour l'interpeller. Ce n'est donc pas vraiment une histoire d'eau. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Mais plutôt une histoire de contact, de rencontre. Remarquons au passage que Jésus est fatigué, il a soif. Il laisse ses disciples s'occuper d'acheter la nourriture. Il aurait pu faire un miracle, comme à Cana par exemple. Mais Jésus avait un rendez-vous crucial pour lequel il devait être seul. Alors pourquoi Jean ajoute ce texte? Parce que cette histoire doit nous servir à expliquer l'amour incommensurable de notre Dieu. Et comment opère-t-il? Nous allons le voir en trois points. Premièrement, Jésus nous rejoint dans notre situation présente. Cela peut être une situation choisie, une vie dissolue, une addiction, ou alors une situation que nous subissons. Une agression, une épreuve, une séparation. Jésus demande à cette femme un service. C'est comme ça qu'il l'approche. Et ce service va la valoriser. Donne-moi à boire. Ce simple service demandé va opérer chez cette femme, enfermée dans ses erreurs et ses peines, un déblocage. Et elle va adhérer à un échange culturel. Elle lui dit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire ?» À moi, une Samaritaine. En gros, elle dit, tu t'intéresses à une femme comme moi? En effet, son comportement avec les hommes l'a éloignée de la vie sociale, de la vie culturelle et même de la vie cultuelle. Et voilà qu'un juif dialogue avec une Samaritaine et cette discussion va être fructueuse. Oui, Jésus est venu pour toutes les brebis perdues de la terre. Et ce même Jésus passe chez nous aujourd'hui, ce matin, ce long cours. Et il s'arrête de la même façon. Que nous dirait-il ce matin pour un premier dialogue? Il pourrait dire à l'un, tu cherches du travail? Tu as peur de la mort? À un autre, tu as des difficultés dans ton couple ou avec tes enfants? Ou alors, tu cherches un conjoint? Ou encore, tu es malade? Il est toujours le même. Et c'est avec cette délicatesse qu'il s'adresse à chacun de nous pour nous retenir. Chers amis, ta situation actuelle intéresse Jésus. Deuxièmement, Jésus nous laisse exprimer nos besoins. Nous avons cité tout à l'heure un besoin de vin lors des noces de Cana et un besoin de comprendre de Nicodème. Et les évangiles nous rapportent tant de besoins exprimés, tel un aveugle qui a besoin de recouvrir la vue, un paralytique qui a besoin de retrouver l'usage de ses jambes, un lépreux qui a besoin d'être guéri, une veuve qui a besoin d'être consolée. La Samaritaine a plusieurs besoins. Elle exprime son besoin d'eau que seul Jésus peut lui donner pour ne plus venir puiser. Elle exprime son besoin de savoir plus sur la façon d'adorer Dieu. Et elle exprime son besoin de savoir plus sur le Messie qui doit venir. Je sais, dit-elle, que le Messie va venir. Elle n'est pas inculte. Celui qu'on appelle le Christ. Et elle a même la foi. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Et Jésus va répondre à tous ses besoins, mais en inversant l'ordre. Pour adorer, elle n'aura plus besoin d'aller à Jérusalem ou sur le mont Garizim. Désormais, elle pourra adorer grâce à l'Esprit Saint qu'elle va recevoir. Et elle pourra le faire dans sa chambre ou alors avec les autres disciples qu'elle va rencontrer. Alors ceux qui adorent, dit Jésus, vraiment le Père, vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Pour recevoir l'eau de Jésus, ça se complique. Jésus veut lui donner cette eau en famille. Et il lui dit, va appeler ton mari et reviens. Qui d'entre nous serait resté après une telle vérité révélée? Mais cette femme est restée près de Jésus après cette demande. Elle a eu une totale confiance en lui. La glace était brisée, le courant passe, grâce à l'attitude de Jésus. Et cette question va lui donner l'occasion de faire sa véritable demande. La guérison de sa frustration et de son besoin de plaire. Parce que jusqu'à là, elle s'est cachée derrière le seul besoin qu'elle osait exprimer, à savoir le besoin d'eau. Et sa réponse franche révèle son identité. Je n'ai pas de mari. Avec ça, elle a tout dit. Soudainement, devant Jésus, elle n'a plus besoin de se cacher ou trouver des excuses pour justifier sa vie. Car lorsque Jésus nous visite, il nous visite avec l'amour de Dieu et ça change tout. Alors la femme laisse sa cruche à cet endroit, nous dit le texte. Elle part à la ville et elle dit aux gens, « Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie. » Il y a là une guérison qui s'est opérée. Elle laisse sa cruche. Ce geste exprime un changement de vie. Elle laisse aux pieds de Jésus sa vie ratée de femme, sa croyance incertaine et son ancienne façon d'adorer. C'est formidable. Une transformation réalisée par une rencontre Et quelle rencontre ! Et encore, pour recevoir des explications sur le Messie qui doit venir, elle ne s'attend pas à la réponse que Jésus va lui faire. Jésus va lui faire un super cadeau. Rendez-vous compte, elle va être la première personne à qui Jésus va révéler sa vraie identité de Messie. Il lui dit, « Le Christ, c'est moi qui te parle. » Waouh ! Jésus fait ce cadeau à une femme, une étrangère, une mise de côté. Troisième point, Jésus nous montre le seul chemin à suivre. Jésus fait un pont entre juifs et samaritains. Son message est pour toute race, tout peuple et tout être humain. Il nous dit par là que nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus fait encore un pont entre la vie ratée de cette femme et ce qu'elle va devenir. La Bible appelle Jésus réparateur de brèches, consolateur des affligés, restaurateur des vies brisées. Et enfin, Jésus veut faire un pont entre Dieu le Père et nous, les humains. Les évangiles, les livres et le livre des Actes des apôtres sont pleins d'exemples de personnes qui ont trouvé ou retrouvé une relation avec Dieu grâce à Jésus. Il y a des femmes, Marie, Marthe, Marie-Madeleine, Lydie, marchande de pourpre, des juifs, Pierre, Jacques, Jean, Paul, Timothée, des religieux, nous avons cité Nicodème tout à l'heure, le chef de la synagogue de Capernaum, et encore un brigand, un soldat romain, une femme adultère. Tous ont droit à la rencontre avec Jésus et être restaurés par lui. Vous avez cependant remarqué que Jésus ne passe pas sur le péché de la Samaritaine. Il le dénonce avec amour pour lui donner le moyen de recevoir le pardon, d'être guéri et restauré, de changer de vie et finalement devenir à son tour un témoin. Sur ces quatre points, je voudrais simplement terminer. Le pardon. Chers amis, notre Dieu est saint et il ne peut pas tolérer le péché, quel qu'il soit. Mais il a pensé à la remise de peine. Plus, il est celui qui veut effacer nos fautes. Il y a cependant une condition pour cela. Reconnaître nos fautes et les confesser. Lui dire que nous avons essayé de vivre sans tenir compte de ses commandements et de sa volonté d'être notre Dieu. Deuxièmement, la guérison et la restauration. Lorsque Jésus intervient dans une vie, ça se voit. Si les personnes de Sichar ont écouté et suivi cette Samaritaine, c'est qu'ils ont vu la transformation que sa rencontre avec le Christ a provoquée. Et miracle, en un clin d'œil, ses habitants qui refusaient de côtoyer cette femme l'ont suivi pour rencontrer ce qui a pu changer sa vie. Parce que cette femme, il ne la reconnaissait plus. Elle ne se cachait plus. Elle était rayonnante. Elle donnait envie d'en savoir plus. Troisième point, le changement de vie. C'est la conversion. Faire demi-tour. Renoncer à sa vie sans Dieu et vivre désormais avec lui. Si c'est votre choix, Jésus va demeurer dans vos vies par son esprit. Vous serez désormais appelés enfants de Dieu. Vous commencerez une vie nouvelle et éternelle qui est l'espérance chrétienne. Et quatrièmement, témoignage. Elle invite ses compatriotes à venir voir. Et c'est ce que nous faisons, nous, à travers ces cultes découvertes. Venez voir. C'est la mission que Jésus nous confie en Église et personnellement. Chers amis, lorsque tu dis oui à Jésus, il te donne son esprit et c'est l'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Finalement, oui, notre méditation est bien une histoire d'eau. Les paroles de Jésus sont celles-là, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Qu'importe ce qu'a été votre vie, réussie en partie ou ratée en partie, je vous invite à faire comme la Samaritaine, comme les gens de Sichar, comme Quentin. Venez à Jésus, venez et recevez la parole de Dieu, car il est écrit dans la Bible, voyez et goûtez combien le Seigneur est bon. Dans le dernier livre de la Bible, il est écrit, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire, il faut le laisser entrer et lui dire dans une prière toute simple, « Seigneur, entre dans ma vie. » Et avec ça, nous confessons que nous avons passé à côté de l'essentiel, que nous avons besoin du pardon et besoin de recevoir Jésus au milieu de nous. Et le Christ, en réponse à cette prière, entrera chez vous avec tout ce qu'il est, avec ses perfections, avec son pardon, avec la vie éternelle. Alors, ce matin, je voudrais simplement vous inviter à courber la tête et à prier. Peut-être que quelqu'un a entendu, comme Quentin, la voix de Dieu, celui qui vient et s'approche de nous. Mais peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui a laissé un peu tomber, Quentin en a parlé aussi, et a besoin de revenir. Alors, simplement, nous voulons nous tenir dans la prière, et Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu es celui qui nous rejoint encore ce matin. Tu ne nous rejoins pas en nous montrant du doigt, tu nous rejoins dans nos difficultés et peut-être dans nos mauvais choix. Mais qu'importe. Tu viens avec tout ton amour, tu viens avec ton pardon, tu viens avec ta réconciliation, tu viens donner une vie nouvelle. Tu viens nous aider à faire demi-tour ou à revenir vers toi. Alors nous te disons, nous avons besoin de toi. Et peut-être quelqu'un dans le fond de son cœur va dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme sauveur personnel. Pardon d'avoir passé à côté, mais aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Amen.